Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve désormais le vendredi après-midi et Dieu sait que c'est un créneau qui nous plaît pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Je dis et Dieu sait que c'est un créneau qui nous plaît parce que pendant tout l'hiver, ben, en raison des horaires de Shabbat, on a été un petit peu contraint de passer le samedi soir à 19h. Et nous voilà de retour le vendredi après-midi avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Il y a quelque chose de particulier le vendredi, hein. Il n'y a rien à faire.
Exact.
C'est le jour, quoi. Le vendredi, le samedi, bien sûr. Mais bon, personnellement, j'aime mieux quand on se retrouve le vendredi après-midi, je vous le dis. Et c'est mon sentiment à moi, je ne demande pas forcément à tout le monde de dire la même chose. Rav Eli Lemel, alors vous êtes ce soir très spécial, si j'ose dire. Vous avez envie de parler des quatre parachutes en même temps, parachutes à venir. On n'est pourtant pas avant Pessah. Pourquoi vous avez eu cette idée extraordinaire de parler des quatre parachutes qui viennent?
Alors, je ne vais pas parler des quatre parachutes qui viennent, je vais parler des quatre parachutes, mais pas qui viennent. Parachutes, c'est-à-dire de ces quatre textes qu'on a déjà commencé à lire et qu'on va lire pendant tout le mois de Hadar. Les Arba Parachutes, ces quatre textes supplémentaires, puisque vous avez constaté déjà que, eh bien, Shabbat dernier, on a sorti deux Sefer Torah, ce Shabbat non, et puis après, Shabbat suivant, on va en sortir de nouveau deux, Shabbat d'après aussi, et puis le Shabbat d'après deux, et on va arriver donc dans le mois de Nissan. Et donc, je voulais m'arrêter justement sur ces Arba Parashiot, c'est-à-dire sur ces quatre textes que les Chachamim nous ont demandé de rajouter à la lecture de ce qu'on appelle pompeusement le Péricope de la semaine. Est-ce que ça vous convient?
Ah, c'est magnifique. Parce que j'ai envie de dire, vous allez nous parler des quatre Parashiot que quelque part, on ne parle jamais.
Alors, on peut en parler, mais pas en tant que tel. C'est là où j'aimerais un petit peu m'arrêter, sur comprendre un petit peu de quoi elles parlent, pourquoi il faut les lire à cette époque, et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous apprennent. Donc, on a lu d'abord, alors, la halakha nous dit, la loi juive nous dit, c'est dans le Shulchan Aruch, que, eh bien, le Shabbat précédent Rosh Chodesh Adar, donc c'était Shabbat dernier, ou alors si le Shabbat est Rosh Chodesh Adar, eh bien, ça serait aussi ce même Shabbat, on va commencer à lire une première paracha qui est ce qu'on appelle Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, c'est le texte dans lequel, eh bien, on a face à nous l'ordre qui avait été donné à Moshe par Dieu de faire le prélèvement du Machatzit HaShekel, c'est-à-dire de cette pièce d'un demi-sicle, qui, au moment où ça avait été dit, allait servir à deux choses, allait servir et à la fois par rapport à la construction du Mishkan, du sanctuaire, et aussi pour compter le nombre d'enfants d'Israël, puisque dans cette paracha-là, eh bien, qui est Kitissa, on nous dit voilà, qu'il va falloir compter les enfants d'Israël, mais comme on ne peut pas les compter tête par tête, on va demander à chacun de donner une pièce d'un demi-shekel, et à partir de cela, eh bien, on va compter les pièces et on saura combien elles sont. Et puis, le Shabbat d'après, ou alors on saute un Shabbat, eh bien, on va se retrouver donc paracha de Zachor, la paracha dans laquelle la Torah nous enjoint de nous rappeler d'Amalek, Amalek notre ennemi juré, celui qui nous attaque à la sortie d'Égypte, et l'obligation que l'on a, assez paradoxale d'ailleurs, d'effacer son souvenir et de ne jamais l'oublier. Donc un petit peu paradoxe d'effacer son souvenir et de ne jamais l'oublier. Et puis après on a Parashat Para, le texte dans lequel la Torah nous enjoint de faire ce qu'on appelle la Paradouma la vache rousse. C'était cette mitzvah, ce commandement qui a été donné que on doit prendre une vache complètement rousse, et puis après lui avoir fait la shrita, on va prendre cette vache, on va la brûler, on mélangera ses cendres avec de l'eau pure, et après, eh bien, on pourra en asperger ceux qui ont été en contact avec des morts pour leur redonner la pureté qui leur permet de re-rentrer dans le temple. Et en quatrième, eh bien, Parashat HaChodesh, ce texte dans lequel on a cette première mitzvah qui est donnée au peuple d'Israël de manière collective avant la sortie d'Égypte, qui est de sanctifier le mois, et aussi tout ce qui a trait à l'univers du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau pascal. Et la question évidemment se pose, pourquoi la Torah, pourquoi les Chachamim, pardonnez-moi, nous ont demandé de lire ces quatre parashiot dans cet ordre et à cette période de l'année. Rappelons tout d'abord qu'il y a une, éventuellement deux parashiot, c'est-à-dire il y a un ou peut-être deux, c'est une discussion texte, que nous avons l'obligation de lire une fois par an. Il s'agit du texte de Zachor, justement, de se rappeler d'Amalek. Mais au-delà de ça, eh bien, ce que nous lisons chaque semaine n'est pas un commandement de la Torah. Ce sont les Chachamim qui ont institué, Ezra, Sofer, ont mis en place en effet cette lecture qui d'abord se faisait en 3 ans, après va se faire en 1 an. Mais par contre, la Parasha de Zachor, il faut la lire. Donc les 3 autres que l'on va lire, eh bien, ce sont des institutions des Chachamim avec une discussion sur Parasha de Parah. On ne va pas rentrer maintenant dans un débat talmudique. En tout état de cause, qu'est-ce que ces 4 parashiot font à cette période de l'année? Alors, la Parasha de Shkalim, eh bien, nous savons que juste avant le mois de Hadar, on faisait passer dans le peuple d'Israël, comme on dit, « Mashmim al Shkalim », on faisait passer le message qu'on allait devoir maintenant pour chacun donner une pièce d'un demi-shekel, non plus tant pour compter les enfants d'Israël, mais surtout pour que cela constitue ce que j'appellerais un peu pompeusement le trésor du temple, en tout cas, que ce soit des éléments pour la trésorerie du temple. Mais est-ce qu'il y a peut-être un autre message? Et j'aimerais au fond réfléchir sur le fait qu'on va lire ces 4 parashiot juste avant d'arriver dans le mois de Nissan. Nissan, c'est le mois de la Geoula, c'est le mois de la libération. Nos maîtres nous disent « Benissan Nigal » ou « Benissan Atidin Higael ». C'est en Nissan que nous avons été délivrés et c'est en Nissan que nous allons être délivrés un jour. Donc, c'est le mois de la délivrance du peuple d'Israël, c'est le moment dans lequel on se constitue en tant que peuple, puisque c'est à ce moment-là que l'histoire du peuple juif commence. Et la question, elle est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces 4 parashiot, peut-être quelques indications sur ce que j'appellerais des fondamentaux à inscrire en amont de la construction du peuple juif. Est-ce qu'il n'y a pas des idées que nous devons posséder de manière claire avant cela? Eh bien, on va essayer de voir chacune de ces parashiot, mais évidemment très succinctement. Tout d'abord, Shkalim. Shkalim, cette obligation de donner un demi-cycle. Et là-bas, nous savons que si on donne une pièce d'un demi-shekel et non pas d'un shekel complet, eh bien, ça ne fonctionne pas. Comme le texte nous dit, « Ashir lo yarbe vadal lo yamit », celui qui est riche, eh bien, ne peut pas en rajouter. Celui qui est pauvre ne peut pas en donner moins. Chacun doit donner un machadita shekel. Peut-être qu'on est en train de nous dire qu'une des choses les plus fondamentales qui construit la possibilité du peuple juif, c'est et à la fois cette idée de complémentarité et cette idée d'égalité. La complémentarité, c'est le symbole de la pièce d'un demi-shekel, donc quelque chose d'inachevé. Et donc, il faut que l'autre soit là. Et c'est une idée très classique, très connue, mais vous savez, on a besoin d'avoir en tête et de se remémorer des idées un peu classiques et connues pour réinscrire des fondamentaux de manière claire dans notre vie. Donc, cette idée de complémentarité, puis cette idée d'égalité. C'est-à-dire que oui, il y a une réalité, il y en a un qui est riche et l'autre qui l'est moins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une égalité entre les deux dans leur statut d'individu. C'est-à-dire que lorsque l'on fait ce décompte, eh bien chacun donnait une demi-pièce de la même manière. Traduction, chacun a une place qui est fondamentale dans l'histoire du peuple juif. Et même si certains, a priori, nous pensons qu'ils en ont une plus importante, eh bien, oui, ils ont une responsabilité plus importante, clairement, mais par ailleurs, eh bien, ils ont une valeur qui est à l'égal des autres. Après, évidemment, les actes que nous allons produire vont nous donner une dimension supplémentaire, mais à la base, il y a cette dimension d'égalité symbolisée par cette pièce identique que nous devons toutes et tous donner. Et puis, tout de suite derrière, cette notion de Zachor, l'obligation de se rappeler de Amalek. Amalek, c'est donc ce peuple qui a voulu semer le doute et faire en telle sorte que le peuple d'Israël commence à se dire, mais au fond, peut-être que Dieu n'est pas nécessairement toujours présent avec nous. Et l'otishkar, ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier qu'au fond, l'identité juive, elle est bâtie sur des certitudes, sur des choses qui sont claires, sur des choses que l'on inscrit en profondeur à l'intérieur de nous et qui sont inamovibles et inébranlables. Et Amalek est là justement pour déstabiliser. Et donc, la Torah ici nous dit, sache qu'en amont donc de ces fêtes, en amont de Nissan qui va nous ouvrir à la fête de la libération, eh bien, sache qu'il est nécessaire de créer une certitude profonde, absolue, parce que tu te confronteras durant toute ton histoire à ceux qui essaieront de te déstabiliser dans cette dimension-là. Vous savez, ça va être aussi celles et ceux qui vont nous dire « la Torah est belle, elle est merveilleuse, elle est passionnante, elle est intéressante, les commandements, c'est génial, le concept du Shabbat, c'est top, mais si ça ne te dérange pas sans Dieu. » C'est-à-dire qu'on n'est pas intéressé, au fond, à ce que Dieu soit dans cette histoire, on gère comme des grands, comme dirait l'autre. Et ça, en effet, c'est la seconde. La troisième para, c'est quoi? C'est le chok. La para d'Ouma, les lois de la vache rousse, eh bien, c'est l'univers du chok, de la loi incompréhensible, mais que l'on va accomplir parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Au fond, un autre élément fondamental qui doit être inscrit dans l'identité juive avant justement cette libération, c'est cette idée de soumission à la volonté du Créateur de l'univers. Quand on fait une mitzvah, quand on accomplit un commandement, la première raison pour laquelle on le fait, eh bien parce que Dieu nous l'a ordonné. Et nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous soumettons à son ordre, même si à un moment il y a quelque chose qui nous dépasse, même si à un moment il y a quelque chose de totalement incompréhensible, ça fait partie, j'ai envie de dire, de l'ADN spirituel du peuple juif. Et puis en quatrième lieu, eh bien, cette mitzvah de sanctifier le temps et le korban pessar, ce sacrifice de l'agneau pascal qui est d'abord la capacité que nous avons de nous arracher au monde de l'idolâtrie, de nous arracher à tous ces systèmes qui sont autour de nous pour nous inscrire pleinement dans ce que la Torah nous propose. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes considèrent que la Torah doit être ouverte au monde, à la culture et à tout ce qui va autour. Si on réfléchit, l'individu est ouvert au monde, clairement, mais il sait qu'il a des choses à apporter au monde à travers cette Torah qu'il possède, à travers cette connaissance, à travers toute sa génialité. Et cette notion du temps qui est là et que nous devons sanctifier, c'est-à-dire, pour reprendre une expression très basique, donner du sens à chaque moment de notre vie. Voilà ici peut-être une autre lecture de ce que représentent ces quatre parachiotes qui sont en amont, comme je vous l'ai dit au début, de la délivrance du clan d'Israël du mois de Nissan, du mois dans lequel on va parler en effet de la construction pérenne et qui ira jusqu'à l'avenir du Mashiach et au-delà même du peuple d'Israël. Voilà donc un petit peu comment comprendre ces rajouts des Chachamim.
Amen, amen. Et espérons effectivement, comme le dit la tradition, qu'on n'aura pas besoin de tous les lire parce que la délivrance viendra avant. Merci Ravelli Lemel pour ces belles paroles et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat Shalom, quel plaisir de vous retrouver le vendredi. On avait l'habitude de vos cours le samedi. Maintenant, voilà.
C'est la joie. Voilà. Enfin, on reprend les choses à l'endroit, si je puis dire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kabbalat Shabbat. On fait Kabbalat Shabbat, effectivement, quelques minutes avant Shabbat.
Quelques minutes avant Shabbat, sachant par ailleurs que, soyons honnêtes, enfin moi je parle de moi, j'ai jamais... c'est le plus agréable, c'est de dire Shabbat Shalom. Mieux que Shavuot, franchement. Oui. Allez, mais je parle pour moi. Les rabbanim, ils disent tous les jours sont beaux. Rav Mordechai Biton, bah vous voulez, vous, justement, parler de la paracha de cette semaine, qui est Terouma, mais vous voulez le lier à Purim. Et pourquoi cette idée extraordinaire?
Alors, ce qui domine dans l'histoire de Pourim, c'est d'abord le Lashon Hara, c'est la médisance de Haman, qui s'adresse à Assuérus, donc à Achashverosh, et qui lui dit « Yeshno Amechad », il y a un peuple, qui en fait est un peuple Echad, il est unique, il est lié à l'être unique qui est Dieu, il est en général uni, mais Fosar ou Meforad, actuellement il est dispersé, il est divisé. Donc on peut les attaquer. Et la Gemara dans Megillah, la page 13, va rapporter que Achashverosh a un petit peu peur. Il dit « J'ai quand même un petit peu peur de m'attaquer à eux, parce que j'ai peur qu'il m'arrive ce qui est arrivé à mes prédécesseurs, Pharaon et Sanhérib, qui se sont attaqués à Amisraël. » Et là, Haman lui répond « Leur Dieu, Yeshno Amechad, Yeshno, il y a un peuple, mais ça fait référence à Lishon. En fait, leur Dieu, il est parti dormir. Il n'intervient plus dans le monde, il n'est plus là. Ils sont divisés. Ils sont divisés, comme il n'y a pas de, comme il n'y a pas d'union entre eux, il n'y a pas d'union entre eux et leur créateur, et qu'il n'y a pas d'union entre eux-mêmes, et ben finalement, on peut les attaquer. Alors, quel est le lien avec la paracha? Le lien avec la paracha de Trouma, elle nous parle de la construction du tabernacle, et la Gemara dans Shabbat, à la page 98, nous rapporte le secret qui permettait de faire tenir le tabernacle. Car lorsque vous lisez la paracha, vous apercevez par exemple que les parois qui entouraient la cour du tabernacle étaient extrêmement lourdes, et telle que la construction de ce tabernacle nous est rapportée, on voit bien que les choses ne pouvaient se faire que par miracle. C'est Moshe Rabbeinu qui, pendant les 7 jours d'inauguration du tabernacle, va à la fois le démonter et le remonter. Mais chaque pylône qui formait la cour, enfin qui entourait la cour de ce tabernacle, pesait pas loin un peu plus d'une tonne. Donc c'était effectivement totalement miraculeux que Moshe Rabbeinu puisse les soulever et les remettre. Mais quand on les posait les uns à côté des autres, ils n'étaient reliés que par une barre, en quelque sorte légère, qui n'était pas de nature en tant que telle et faire tenir. Alors qu'est-ce qui faisait que ça tenir? C'était ce qu'on appelle le bariach. Il y avait ce qu'on appelle un bariach atichon, c'est-à-dire en fait une barre qui passait au beau milieu donc des pylônes et qui tournait, qui s'incurvait au fond de la cour pour tourner vers la gauche, et puis qui s'incurvait à nouveau pour repartir de l'autre côté. Autrement dit, un miracle complet. Donc le miracle, le secret finalement de la capacité de cette cour du tabernacle à tenir, finalement, c'était une barre miraculeuse qui passait au milieu donc des pylônes et qui s'incurvait de chaque côté donc pour faire le tour en quelque sorte de la cour, en quelque sorte du tabernacle, de telle manière que tout ça tienne. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? En fait, c'est que le sod, finalement, le secret du tabernacle, c'est l'union. Le bariach hatichon, cette barre qui passait au milieu de manière miraculeuse et qui s'incurvait, eh ben, cette barre, c'est le secret de la tenue du tabernacle. C'est-à-dire qu'elle unifiait toutes les composantes qui entouraient le tabernacle. Cette ardout des éléments, cette unité miraculeuse des éléments, elle était le reflet de l'unité du peuple juif qui se rendait au tabernacle pour servir Hachem, de l'unité du peuple juif qui, après la faute du veau d'or, s'est réunifié autour d'Hachem, et donc le secret, finalement, de l'union entre Hachem et son peuple. Le fondement du tabernacle, c'est l'unité. L'unité avec Hachem, l'unité des composants de l'univers que l'on rassemble pour les amener en sacrifice, c'est l'unité du peuple juif. Plus tard, le temple va être construit par le roi Shlomo, Milachon Shalom, qui fait référence au Shalom, c'est-à-dire les capacités à réunifier tous les éléments. Les fils de Haman, et au début de l'histoire de Pourim, le Midrash nous raconte que les fils de Haman étaient assis à Jérusalem, envoyaient des lettres d'incitation à la haine au roi perse en disant que les Juifs voulaient se rebeller contre le roi. Et pourquoi est-ce que les fils de Haman se tenaient là-bas? Quel était leur intérêt aux fils de Haman et à Haman lui-même, descendant d'Amalek, d'écrire des lettres, de faire écrire des lettres mensongères pour interdire aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash? Ben, c'est tout simplement parce qu'on a ici en fait deux antithèses. Amalek, le peuple qui va nous attaquer à la sortie d'Égypte et dont est issu Haman, c'est le peuple qui reflète la division. Séparer la création de son créateur, séparer les Juifs de leur créateur. Par exemple, lorsque la Torah va dire qu'on doit faire la guerre contre Amalek, elle va dire « Milchama l'Amalek d'or ». Il faut faire la guerre à Amalek de génération en génération. Mais normalement, dans le texte hébreu, on aurait dû dire « Milchama l'Amalek d'or vador », les chols d'or vador. À chaque génération, de génération en génération, avec un vav, la lettre vav, qui est la lettre de l'union entre les mots. Et cette lettre disparaît dans le verset. Pourquoi? C'est pour nous enseigner que l'essence de Amalek, c'est de briser l'unité entre les générations, de casser la transmission de la Torah, de casser la possibilité même de transmettre de père en fils, de maître à élève, la Torah. Et donc la guerre contre Amalek, c'est précisément la possibilité pour le peuple juif de transmettre la Torah de génération en génération, dans la cellule familiale, dans les institutions scolaires, dans les yeshivot, dans les centres d'études, où là, la Torah se transmet, elle assure l'union entre les générations et l'union avec Hachem. Donc lui, Amalek, c'est son essence de détruire l'unité. Et le peuple juif, son essence, c'est de restaurer l'unité. Quand est-ce que le peuple juif peut tomber entre les mains d'Amalek? Lorsqu'il oublie la civilisation du Beth Amikdash, ce qui a trait au Beth Amikdash, au temple, au tabernacle du désert, qui est donc l'union. L'union absolue, la hardoute, on dirait en hébreu, et donc il se divise, il s'éparpille, et donc il peut tomber effectivement entre les mains de l'écorce d'impureté, des forces d'impureté que représente Amalek. Et il y a là ici un message mais pour notre époque. Notre époque, c'est une époque où on vit à la fois un fantastique retour aux sources, et en même temps des combats, des divisions, on vit des périodes d'affrontements très durs, et en fait... Comme on l'a vu par exemple récemment autour du drame de la famille Palais, autour des attentats de Neve Yaakov, autour des attentats de Ramoth, et ce qu'on voit, c'est que finalement, des personnalités qui sont des personnalités de Torah très fortes envoient un message très clair à l'ensemble des publics, on va dire, qui composent le peuple juif, et disent voilà, on va s'unir. On va s'unir autour d'Hachem, autour de la Torah, autour de la Tshuva, autour du retour vers la Torah, et on va essayer d'oublier nos divisions. Et c'est ce qui va finalement nous donner de la force. Et comme toujours, je ne résiste jamais à cette idée de faire un petit clin d'œil à l'actualité, mais je vous rappelle que Nasrallah s'est un petit peu moqué de nous. Il a dit, voilà, il a fait croire à ses auditeurs et ses auditrices, à ses partisans, qu'il y a une guerre civile en Israël. Ça a entraîné une réponse, mais je crois que la meilleure des réponses, c'est la lecture de Parashat Truma, c'est la lecture de Parashat Zachor la semaine prochaine, et c'est la fête de Pourim qui, je l'espère, va nous permettre à toutes et à tous de nous donner la main et de retrouver cette unité qui est nécessaire, comme on le voit ici, dans ce lien qui est établi entre Parashat Truma et Parashat, et donc l'histoire de Pourim. Voilà. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai. Et vous avez raison, le numéro 1 du Hezbollah a dit « Regardez en Israël, ça y est, ils sont au bord de la guerre civile, l'entité sioniste va tomber ». Et voilà, et Netanyahou lui a dit t'inquiète, c'est pas pour tout de suite, on n'en est pas là. Cache ta joie, je sais pas quoi il lui a dit.
Nous sommes des frères.
Il lui a dit du calme. On n'en est pas là. Tu ferais mieux de regarder d'ailleurs du côté des Iraniens, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus chaud là-bas. Ouais, Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Shabbat Shalom. Shabbat et à la semaine prochaine. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Toujours ce plaisir renouvelé de se dire Shabbat Shalom. On l'a constaté déjà avec tout le monde. C'est bien aussi hein, de dire Shabbat Shalom, même après tout l'hiver où on s'est dit Shavuot Tov. Rav Gay, réfléchissons un peu sur Truma. Et dans Truma, il y a une des phrases les plus célèbres de la Torah. C'est... Et vous ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Je crois même que c'est l'un des psukim qu'on met le plus dans les synagogues. Parce que d'ailleurs, il s'agit de ça. Et quelle réflexion ça vous amène?
Alors exactement, donc c'est un verset qui se trouve dans le huitième verset de la paracha. C'est un verset central puisqu'il explique tout le sens même du sanctuaire. Faites pour moi un sanctuaire et je résiderai betocham. Alors, le problème ici dans cette phrase, c'est qu'il y a une erreur a priori parce qu'on parle du Mikdash, donc c'est un singulier, d'accord ? Vous ferez pour moi un sanctuaire. Veshachanti betocham, ça ne va pas du tout. Veshachanti betocho. Je résiderai en son sein, à l'intérieur de ce Mikdash dont on vient de parler. Shachanti betocham, c'est-à-dire je résiderai parmi vous, c'est au pluriel, et ça ne va pas du tout. Donc tout le monde se pose la question, puis les commentateurs se disent, mais je ne comprends pas, c'est quoi le shachanti betocham? Alors on sait bien, la réponse habituelle, classique, c'est de dire que Hachem voulait résider parmi chacun d'entre nous, c'était vraiment le cœur de chacun d'entre nous. Du fait de la fraude du veau d'or, Il a fallu faire un lieu qui s'appelle le Beth Amigdash ou le Mishkan, le de résidence d'Hachem, qui réunit les cœurs de tous les peuples juifs à travers les dons qu'ils ont fait, le Nidvat Lev, le don du cœur. Et donc, Veshachanti Betocham, c'est ce qui était prévu au départ, mais en fait, Veshachanti Betocho, il va résider dans le sanctuaire. Et je voudrais ici donner un commentaire du Megalé Amukot. Megalé Amukot, c'est le Rav Shapira, Nathan Shapira, un grand kabbaliste du XVIIe siècle, qui a vécu à Cracovie, qui est enterré. Et ce Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire. Veshachanti Betocham, il dit qu'il faut partager, couper ce mot en deux parties. Betor, donc betor, et même. À l'intérieur du même. Ça veut dire quoi? Veshachanti betor même. Je vais résider à l'intérieur du même. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, le Megalé Amukot s'explique. Il dit que le même final, hein, et il y a des mêmes qui n'est pas final, le même final, il est comme un carré fermé. Et il fait penser à une Gemara dans Berachot, bien connue. La Gemara dans Berachot nous dit que depuis la destruction du Bet Amigdash, du sanctuaire, il y a eu deux Bet Amigdash, les deux, donc l'un a été en place pendant 410 ans, l'autre 420 ans. La fin de cette période, la Gemara nous dit que la Shekhina réside dans les quatre coudées de la Halakha. Alors qu'est-ce que ça veut dire les quatre coudées de la Halakha? C'est lorsqu'il y a une étude qui débouche sur des principes halakhiques, sur la façon de se conduire, comment faire de Shabbat par exemple, comment respecter le Shabbat. Je prends un exemple au hasard, la kashrout, etc. Donc si j'étudie et que suite à cette étude, j'arrive à une conséquence, à une conclusion d'ordre pratique, on appelle halakha, à ce moment-là, la Shekhina réside dans ces quatre coudées, on appelle ça les quatre coudées de l'Halakha. Donc, ces quatre coudées, on imagine un lieu fermé, une sorte de Beit Midrash. Et justement, c'est les quatre côtés du même. Le même, il a quatre côtés fermés, et il fait allusion donc Betor, le même. Je résiderai dans les quatre coudées de l'Halakha. C'est cette allusion auquel le Megalé Amukot pense lorsqu'il voit Veshachanti Betocham. Alors je voudrais ici justement vous expliquer quelque chose de très intéressant sur la lettre Bet et la lettre même. Vedibarta Bam. Je vous rappelle que c'est un verset qu'on dit dans le Shema. Shema Israël, après Baruch Shem, Ve'ahavta. Et ça se termine aussi Vedibarta Bam. Tu parleras Bam. Bam, c'est-à-dire en eux. Bam, c'est-à-dire parler des livres et Torah. Et on nous fait remarquer que le Bet est le même, donc Bam. Commence le Bet, commence la Torah écrite, Bereshit, et le même commence la Torah orale, Me'ematai. Et ce qui est intéressant dans le Bet, c'est qu'il a effectivement trois côtés. Mais le côté nord, bon, si on regarde devant nous, c'est l'est, toujours un juif devant lui à l'est, donc si l'est est devant moi, le nord est à ma gauche, le Bet a un côté qui est ouvert. Et le Tsafon, du côté nord. Le côté nord, le Tsafon, est appelé dans le Tsfoni, c'est le Yetara. Le Yetara est appelé le Nord. C'est le lieu donc qui est ouvert et qui laisse la place justement aux forces du mal. Mais lorsque j'arrive au même, là, les quatre côtés sont fermés. Le même, le bête est fermé, ça donne un même, même final. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que la Torah orale, si elle est bien étudiée, elle permet de fermer le bête. Alors bête, déjà, c'est deux en valeur numérique, donc ça fait penser à la dualité, à la... au bon côté et puis au mauvais côté, il y a toujours ce côté, cette dualité, ce libre arbitre entre le bien et le mal. Ça, c'est le bête, le 2. Et le même vient justement consolider, fermer, en donnant à l'homme cette possibilité d'étudier la Torah orale qui va nous permettre justement de fermer cette partie qui est difficile. Alors j'explique pourquoi, c'était une marade en Kiddushin que tout le monde connaît. Barati et Tarara, j'ai créé le mauvais penchant. Barati, Torah Tavlin. La Torah vient, littéralement c'est une épice, enfin on va expliquer ça d'une façon peu détaillée, mais en tout cas le Letzara en gros protège l'homme des forces du mal. Et c'est pour ça qu'il a été créé, la Torah a été créée entre autres pour nous protéger de cela. Donc lorsque le verset dit Veshachanti Betocham, Betochamem, elle parle justement de cette sécurité, de ces quatre côtés bien fermés, qui nous protègent à travers justement l'étude, une étude de la Torah orale qui débouche sur la halakha, les choses d'ordre pratique. Et Vedibarta Bam, tu parleras en eux, on parle de parler de Torah, Bet Torah écrite, Bereshit, et même Mehemata est le début de Maseret Brachot par laquelle commence la Torah orale. Et si on arrive à faire cette association entre la Torah écrite et la Torah orale, eh bien finalement on est protégé de l'ouverture du Bet qui laisse la place au Tsafon du côté nord et donc qui laisse la place aux formes du mal dont il faut se protéger grâce à cette étude. Voilà un petit peu ce que le Megalé Hamukot nous dit, donc en tout cas une partie de ce que j'ai dit a été écrit par le Megalé Hamukot. Tout ça pour nous expliquer quelque chose de très important. La raison pour laquelle Hachem nous demande de créer un Bet Amigdash, c'est parce que, justement, il nous a donné la Torah. Or, la Torah, Dieu dit, c'est ma fille unique. Et le Midrash nous fait une allusion à travers une métaphore. Il y avait un jour un roi qui avait une princesse, qui était une fille unique, et il a dit à son gendre, la condition pour être le mari de ma fille, qui est ma fille unique, que j'adore, c'est que chaque fois que tu iras quelque part, tu crées un lieu où je puisse, moi, le beau-père, ton beau-père, résider. Je ne peux pas me séparer de ma fille. C'est impossible, donc il faudra que là où tu vas résider, crée un endroit, une pièce, un appartement, pour que je puisse être à côté de ma fille. Et là, la Torah, c'est comme ma fille unique, dit Hachem, la Torah, c'est ma fille unique. Je vous la donne au moment de Matin Torah, je vous offre ma Torah. Mais attention, il faut que j'ai un lieu de résidence pour pouvoir l'accompagner. Or, le lieu, l'endroit central, c'est évidemment le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel se trouve les Luchot, donc la Torah, les tables de la loi. Dans ce lieu bien fermé, bien hermétique, qui est carré d'ailleurs comme le même, dans ce lieu, la Shekhina réside, c'est là que la présence divine se trouve, et c'est là que la Torah se trouve, parce que Dieu accompagne sa fille unique, la Torah. Et donc, Ve'asuli Migdash Ve'Shachan Tibetocham, c'est soit à travers le Haron, l'Arche Sainte, soit à travers l'étude qui débouche sur l'Alakha. C'est très intéressant de voir comment la Gemara insiste sur le fait que cette étude n'est pas une étude théorique, mais une étude qui arrive à la pratique, qui débouche sur une Alakha. C'est une façon pratique d'agir, parce que la Torah, vous savez, c'est une Hora, c'est un enseignement qui est là pour nous expliquer comment vivre. C'est très important que tout le monde comprenne que la Torah, ce n'est pas simplement se faire plaisir avec des élucubrations intellectuelles d'un haut niveau, en faisant des raisonnements qui peuvent être brillants. Mais la Torah, c'est nous enseigner, nous expliquer comment vivre. C'est un apprentissage, une façon de nous dire voilà comment Dieu veut qu'on vive, et apprendre à travers cette pratique religieuse, comprendre un peu mieux le sens profond de la Torah. Na'aseh ve'nishma, à travers l'action, nishma, on va comprendre, on va entendre, on va savoir comment faire. Donc voilà pourquoi ce verset, Asuli Migdash Veshachan Tibetoham, est un verset tellement important, qui est d'actualité, même si on n'a plus le Bet Amigdash, et qui se résout aussi la contradiction. Asuli Migdash, vous ferez pour moi un sanctuaire, Veshachan Tibetoham, je résiderai Betoham, c'est-à-dire après la destruction du Bet Amigdash, je serai Betoch même à l'intérieur du même. Et d'ailleurs, Veshachan Tit, une allusion au premier Bet Amigdash, dit le Balatorim, Veshachan, il résidera à valeur numérique 410, comme les 410 ans où le Bet Amigdash était en place. D'accord ? Et il y a dans le deuxième mot, Betocham, Toch, il y a le mot Tav, Chaf, c'est deux lettres, Tav et Chaf. C'est 420 ans, c'est l'époque du deuxième Beit Sheni, donc le deuxième temple qui a été 420 ans. Donc on a une allusion au premier, au second temple, et surtout le même qui nous rappelle que même s'il n'est plus là le Bet Amigdash, Akadosh Baruch Hu peut toujours le ramener près de nous, être proche de lui grâce à cette étude qui débouche sur la Halakha.
Rav Guay, je vous remercie. Et puisqu'on a le plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, de nous retrouver le vendredi après-midi et de se dire Shabbat Shalom, sous votre contrôle, je dirais pour clore que la maison, et singulièrement la maison du vendredi soir du Shabbat, est aussi un sanctuaire. Est-ce que j'ai raison? Où on accueille.
Alors justement, le mot baït, la maison, c'est en fait c'est la lettre bête. Voilà, exactement. La lettre bête, c'est baït. La maison doit être un lieu dans lequel effectivement on se retrouve tous. C'est un lieu protégé, entre autres aussi par la pratique religieuse qui nous permet, dans cette étude liée à la pratique, de conserver nos traditions, de conserver notre famille, de conserver notre identité et de la transmettre à travers les maisons juives. Et en particulier le Shabbat.
Rav Guay, je vous remercie. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission se termine, mais en musique, puisque vous retrouvez Onek Shabbat tout de suite après ces discours formidables, tellement nourrissants. Donc Onek Shabbat qui vous est présenté de Jérusalem par le chanteur Raphaël Huizan. Et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes, en attendant donc votre nouvelle émission, Shabbat Shalom. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay.